Cette émission est dédiée à notre ami Khalid Snoussi, qui nous a quittés récemment et prématurément. Nous la lui offrons en souvenir de sa gentillesse et de sa chaleureuse amitié. Transhumance. Ce soir, Timmy Moon, l'Oasis Rouge.
Alors, amis auditeurs, bonsoir. Saïd Bouterfa, bonsoir.
Bonsoir, Monica.
Bonsoir, Adinal, bonsoir. Nous sommes toujours à 1260 km d'Alger, donc à Timmy Moon. Comme la semaine dernière, nous allons donc parler. Nous avons rencontré Saïd Souad.
Oui, nous avons rencontré Moulay Timmy, oui. Abchneou, c'est-à-dire soliste d'Ahlil. Farid Snoussi, qui nous parlera du tourisme, d'hôtellerie. Également Raoutini Barka, enseignant, chanteur, et bien sûr Malika Hedj Boumedien Selka.
Alors pendant 2 heures, nous serons à Timmy Moon avec vous, et si vous êtes là, alors ce sera bien.
Alors je voudrais rajouter une petite précision, ce que nous allons écouter dans un moment, c'est Aïcha Lebga dans la chanson Mama Lazali, qui est devenue un tube, mais à l'origine c'est un traditionnel. Issu du Ahlil. Voilà.
Alors Saïd, on peut dire que Aïcha Lebga, c'est la chanteuse de Timmy Moon.
Oui, donc elle est originaire de Timmy Moon. Elle a chanté pas mal de temps au niveau de cette région. Même la radio d'Adrar a eu l'occasion à maintes reprises de l'enregistrer. Donc il y avait des déplacements, des équipes qui se déplaçaient au niveau de Timmy Moon pour enregistrer les groupes locaux. Et parmi ces groupes, donc Aïcha Lebga. Et je pense qu'actuellement, elle est en train de, si je ne me trompe pas, entreprendre une petite carrière à l'étranger, je crois,
internationale. Donc elle sort un petit peu du genre Ahlil.
Oui. Maintenant, elle essaye de toucher à d'autres genres,
oui.
Bien sûr.
Alors moi, j'ai un petit sentiment. Je dois dire qu'être reçu aujourd'hui dans une maison sans que l'on soit, sans que l'on vous connaisse réellement, et de surcroît devoir raconter sa vie, c'est possible aujourd'hui dans le Gourara. Alors, une mémoire infaillible, un personnage attachant, d'une belle...
Un personnage haut en couleur.
D'une belle stature, malgré les ans. Il nous raconte un peu l'histoire du Gourara.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je m'excuse de parler en français saharien. Parce qu'au Sahara, on ne parle pas beaucoup le français. Je me nomme Boumedien Ben Abdelrahman Selka. Né à Timmy Moon le 13 juin 1926, mon père est lemsénien. Il est venu au Grand Sud, au Sahara, en 1905. Il était médercien, nommé fonctionnaire. Son père est de la région de l'Oued Souf. Il s'appelait Mohamed Ben Baba Jbeili. Nom de famille Sassi. Ma grand-mère maternelle est Gourari, s'appelait Mahjouba Bint Hamida à Béthi.
On verra tout à l'heure, on saura que vous êtes né ici à Timimoun. Mais quand on vous demande, vous vous sentez plus l'Amsénien ou Gourarik, qu'est-ce que vous répondez?
Vraiment, je me sens algérien, saharien. À Tlemcen, on nous voyait comme saharien. Au Sahara, on nous voyait étranger nordiste. Voilà, c'est la vérité. C'est la mentalité des gens du Sud.
Alors, on va parler, si vous voulez bien, un peu de votre père. Mm-hmm. Votre père qui est tlemcénien, donc qui est né à Tlemcen, qui a fait ses études à Tlemcen. Ensuite, il est venu ici à Timimoun, après avoir fait des études, secrétaire interprète dans l'armée française. Alors, racontez-nous un petit peu son parcours.
Mon père est venu au Sahara, nommé fonctionnaire interprète. En 1905, il a fait 40 ans de service, il a pris sa retraite en 1945, justement pendant les événements du 8 mai 1945. Il a eu une grande route. Il a fait, pour venir à Timimoun la première fois, 4 mois de route, par étape, par locomotive. À ce temps-là, le locomotive faisait 40 km à l'heure. Et après, en arrivant à Béchar, il a été obligé d'attendre pour venir dans la caravane militaire qui était escortée par l'armée. Pour venir jusqu'à Adrar, il a fait 4 mois de Tlemcen à Timimoun. Mon père, il a fait beaucoup de travail sur le Sahara. Il a fait les notices sur le Touet, un petit livre. Il a fait un glossaire du mot usuel du Touet. Il a fait la vie d'une famille touétienne pendant 24 heures. Il racontait la vie de ce temps-là. Et d'autres travaux. Il était très estimé par les autorités parce qu'il était très discipliné. Il était très zélé. Il savait très bien son travail. D'un côté de la population, c'est un fonctionnaire qui n'acceptait rien. Oui. Alors, Il était un modèle.
Justement, quand on a eu un père comme vous avez eu, qui a écrit des ouvrages sur sur le Touet, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, sur le Touet, sur Gourara?
La région du Gourara fait partie du Grand Touet. Touet, il englobe 3 daïras maintenant. Tidi Kelt, Touet et le Gourara. L'origine du mot Gourara vient par la suite des caravanes qui venaient au mois d'octobre chercher les dattes. Ils amenaient du blé, de l'orge, des moutons, de la viande sèche, des épices, en principe de la laine, pour le travail des Dokali, du beurre, des herbes, chaïch. Oui. Quand il est arrivé jusqu'à 1000 chameaux, escortés par et armés, à cause des réseaux dans le parcours. En arrivant, en approchant du Gourara, ils se dispersaient dans toute la région. Ils se donnaient rendez-vous pour le retour au Gour. On se rencontrera au Gour. Au Gour s'est trouvé ici, à côté de Bnimlouk. C'est pour ça que le Gourara a pris le nom Gourara. Avant la colonisation française et jusqu'en 1950, le commerce ici se faisait en troc. Il n'y avait ni le poids, ni la mesure. Le troc, 1 contre 2, 2 contre 1 contre 3, les dattes, la laine, le beurre, même les moutons et tout ça. La région avait deux directions. Une direction vers le nord, d'échanges, marchandises contre marchandises. Il n'y avait pas de l'argent liquide. Une autre direction qui vient du côté du Soudan, Tamarasset, Aïn Salah, Aoulef, ont changé beaucoup de marchandises. Ils nous amenaient en principe des moutons, des chameaux, du beurre, Touareg, le clé là, le fromage sec. Et d'ici, il remportait des dates, en principe des dates.
Alors, c'est le cas. On dit aussi qu'il y a eu beaucoup d'Israélites qui se sont implantés dans la région.
Les Juifs, ils n'ont vécu que dans les pays musulmans. Partout, ils n'ont trouvé que refuge dans les pays musulmans. Maintenant, ils sont égoïstes, ils ne reconnaissent pas le khair, l'islam. Pour répondre à votre question, il y avait des familles, quelques familles, partout dans le monde musulman, que ce soit l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, partout où il y a des juifs, des familles juives. En principe, ils sont islamisés. Ici, à Timimoun, il y a des foyers, il y a des familles descendants de juifs. Timimoun porte le nom d'un juif islamisé qui s'appelait Sheikh Mimoun. Sheikh Mimoun, il est enterré ici à Timimoun dans le cimetière de Sidi Boujma'a, originaire de Tlemcen. C'est un cimetière avant Timimoun, ce qui nous prouve que les Algériens, les Tlemceniens, sont descendus ici jusqu'à Timimoun. Ce Mimoun a été, par la suite des guerres fratricides, des hawadith, tabi'iya, huroub, amrad, Hejro, tout la population du Gourara vient du nord, vient un peu du Maroc, les Chorfa viennent du Maroc, au 4e siècle de l'Égypte.
Et les Zénètes, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Zénètes?
On sait que les Zénètes, ils sont partout aussi dans le nord. Le Zénète, c'est une langue berbère. On trouve en Algérie 5 langues berbères.
Ah oui.
D'abord le Kabyle, Chouia, Mzabia, Tchergia, Uznatia, le Zenet. Moi, mes aïeux, j'ai ma grand-mère maternelle qui est Benzian, qui vient de la région de Tlemcen, sont Zenet. Mais maintenant, à Tlemcen, on ne parle plus Zenet, il n'y aura plus Zenet.
Alors,
moi, je parle Zenet parce que je suis né à Timimoun, j'ai été à l'école avec les Zenet. Au commerce, dans le marché, on parle Zénet. Mais les enfants ne parlent pas Zénet.
Alors, il y a des palmerets, il y a des beursours, il y a des koubas en forme de cloche, des anciennes bâtisses colorées. Tout ça fait Timimoun.
Point de vue habitation, tout le toit il est formé de fort, le gasba, le fort. Si vous voulez, je vous montrerai un modèle ici à Timimoun. Tous les gaspas avaient deux portes. Il y avait la mosquée à l'intérieur, le puits à l'intérieur. Puis il y a la fosse qui est entourée. Il y a un pont qui est fait de troncs d'arbres. Quand il y a la guerre, on enlève le pont et on se refuge dans le fort, le gaspa. Mmh.
Fortifié,
voilà.
Alors,
il y a des trous, dans la clôture, il y a trois trous. Mm. Il y a le guerrier debout, puis le guerrier à genoux, puis couché. Pour se défendre, les gens se défendaient.
Yeah.
Serge Boumedine, on dit que la France, la pénétration française est arrivée bien après, c'est-à-dire en 1900, parce que vous l'avez dit tout à l'heure qu'il fallait de longs mois de marche pour y arriver. Donc la France est arrivée en 1900. Qu'est-ce qu'on vous a raconté justement à propos de l'arrivée de l'armée française?
La France, quand elle a colonisé l'Algérie par la suite du cours d'éventail, mais ce n'est pas vrai, parce qu'elle a colonisé l'Algérie par la suite des dettes qu'il devait payer à l'Algérie. Elle a fait la colonisation par étapes. Par exemple, jusqu'à Ardaïa, à la Rouate, beaucoup avant 1900. En venant au Grand Sud, elle a passé par El Golea, Ain Salah, en 1900.
Seulement l'armée, ou là, il y a une population qui est arrivée avec?
Bismillahirrahmanirrahim. L'armée française, quand il est venu, il y avait seulement les cadres français. Mais il y avait beaucoup de soldats arabes, algériens, qui sont venus avec. France ma dakhlet lnach hiya, dakhlet ma'a, dakhlet bwladna, بسبب شعبة وزوا اللي جاءوا معها من وطيال وطيال تويت هي سو كومبوزي دو 3 دائرة على تيت دو شاك دائرة يافي الباشا سي تان سوبر كايد il commandait une dizaine de caïds dans chaque région Tidikelt Tweet et Gourara la population Tchouatien est venu de toutes parts. On trouve Bani Umayya de l'Orient, Bani Al-Abbas, on trouve dans les régions, on trouve des Chorfa qui sont venus un peu partout, de la région de Ain El-Hout, Tlemcen. D'abord, le grand saint du Tchouat, Cheikh Ibn Abd al-Karim al-Maghili, c'était un Mujahid. Un ulama. La population du Gourara est un mosaïque. Oui. La France, le recensement français, on parlait de 43% noirs et 51% blancs. On trouve l'échelle sociale, les Chorfa, Zoua, les descendants de Sidna Abou Bakr Siddiq, on dit les Zoua, les Mrabtin, les descendants des 10 combattants du prophète, Abou Bakr, Omar, Othman, Ali. On trouve les Hrar, on dit les Hrar, les affranchis, les Hrar, les anciens esclaves, les Abid, et puis au dernier de l'échelle, les Haratil, deuxième affranchi. La population en général est très très pauvre. Elle vivait au jour le jour. Il y a quelques années, j'étais avec un ami, un médecin ami de Timimoun, qui est à Timimoun depuis 20 ans. Un vieux nègre sur un petit bourricot maigre, il m'a montré de doigt, il m'a dit, bon, me dire, regarde, celui-là est l'homme le plus heureux du monde.
Pourquoi
il vivait au jour le jour. Quand il a une poignée de dattes, un peu de sucre et un peu de thé, c'était le roi de l'univers.
Haj Boumedine, c'est le cas. La France est arrivée dans le Grand Sud 70 ans après. Bien avant, bien sûr, qu'elle découvre qu'il y avait du pétrole. Mais lorsqu'elle est arrivée dans le Grand Sud, quelle a été sa surprise? Qu'est-ce qu'elle a découvert?
Madame, on sait que le Grand Sud, le Sahara, il avait une spécification. Il y avait d'abord la chaleur, la grande chaleur.
Oui.
Pendant l'été, il faisait jusqu'à 52 à l'ombre. Il y avait les dunes, il y avait les fougaras, puis la lointaine, l'espace. Pour venir, ce n'est pas facile de venir du nord jusqu'à Timimoun. Ce n'est pas facile.
Mais qu'est-ce qu'elle a découvert, la France, quand elle est arrivée?
Le désert.
Et aussi une porte pour passer
pour descendre à l'Afrique. Hein. Ouais. On parlera de ça après. un des grands officiers de la France, on lui a posé la question. Pourquoi la France est venue au Sahara? Il a répondu, c'est pour découvrir des hommes. باش نعرفوا بالرجال الناس اللي جاوا الاولين كيما تيميمون واحد الوقت سماو عليها زنقه على لو كابيتان لوبان ونعرفوا باللي افون 1916 فات هنا في تيميمون الجنرال لابيرين اللي دخل الهجار والى اخره
افون كو لا لوت دو ليبراسيون ناسيونال افون كيل يي لو 1er نوفمبر 54 Vous vous souvenez de ces mouvements nationalistes qu'il y avait ?
Oui, je suis allé à l'Italie. J'ai dit que le pays est faible, faible, faible. La France a fait le pays de l'Algérie. Le faible et le faible. Le faible et le faible et le maladie. En ce qui concerne, il y a des gens qui écrivent le Coran et les mots de l'Abbajdia, le kitab et le qira. La France qui est venue, البشوات والقياد فيهم اللي هرب وفيهم غيرتهم ودارت اللي طايعينها ويخدموها في مصلحتها هي ريحت في منطقة قرارة 62 سنة تبدلوا فيها أربع قياد هذم كلهم نعرفوهم وسمعنا عليهم وخدمتهم وكذا المعيشة كانت الحقيقة ضنكة وفرنسا زادت شجعت المخدرات كان الكيف مباح والدخان مباح والعفيو حتى للشوفر للكيف ايتي بريسك بيبليك اون فيمي لو كيف
l'enseignement est-ce que beaucoup de gens de Gourara pouvaient aller à l'école comment la femme comment quel était son statut à l'époque
l'enseignement a été commencé après la venue des français les premiers instituteurs c'était Monsieur Bensouna, un Algérien du côté de Chlef. Il a resté ici 6 ans, il a eu 3 enfants, le dernier il est encore vivant. Il y avait deux classes, une école de garçons, deux classes, c'est tout. Jusqu'à 1950, qui va à l'école? Les Haratines sont très pauvres. Pour les récupérer, pour les faire venir à l'école, on a créé des cantines scolaires. On leur donnait des soupes à midi. Il n'y avait pas de certificat, il n'y avait pas de centre d'examen. Jusqu'à 1954, on apprenait aux élèves à lire et à écrire, c'est tout. Et puis on les lâchait dans la rue. Jusqu'à 1954, les premiers qui ont le certificat d'études ont été obligés d'aller jusqu'à Béchar. Autrefois, on appelait Colombe-Béchar. Ouais. Ils ont fait presque 1000 kilomètres, 3 jours pour arriver à Béchar pour avoir le certificat d'études. Pendant toutes mes 6 années scolaires, on a une seule visite de l'inspecteur primaire qui venait de Mascara. Une seule fois pendant 6 ans. Et voilà. Qu'est-ce que vous voulez que...
Il y avait des Zawiya qui prenaient en charge quand même la population dans l'enseignement, dans la vie sociale,
Vous m'avez rappelé les travaux de mon père. Il a fait un travail sur les Zawiya du Touat. Il a fait un petit travail sur les Zawiya du Touat. Quand on dit Zawiya, c'est un lieu religieux qui a le chef de la Zawiya, puis les Muqaddam, puis les adhérents, quand on appelle Tchelemid ou le Mouridine. Il y a des grands Zawiya, comme la Zawiya Qadriya, comme les Zawiya Taïbiya, Zawiya Tijaniya, et d'autres, beaucoup. Puis les moyens, puis les toutes petites Zawiya, comme Zawiya Rganiya, Karzaziya, Zawiya Tsid Hajj Belkassem, ici à côté de Timimoun. Ces Zawiya, leur rôle est des bergers. Les passagers, les passagers, ils viennent passer la nuit et s'occuper un peu de l'enseignement. Les Zawiya Mouaya, ils enseignaient le faqh. Le faqh, on trouve dans le Touat, par exemple, dans le Goura Chabel Kouza, Tesfaout, Tesfaout. Et d'autres régions, c'est le rôle des Zawiya. Puis, autre chose, il faisait des médiateurs. Quand il y a un litige entre des familles ou des tribus, ils ont porté le drapeau de leur saint, le grand-père, puis ils faisaient le médiateur.
Réconcilier.
Pour réconcilier.
Le groupe Imdoukel de Timimoun.
Hey, listen to me, watch out,
Saïd, on aurait pu lui consacrer des heures et des heures à Hajj Boumeddin Silka, tant sa mémoire
oui.
est infaillible, et tellement de choses qu'il devait nous raconter, que peut-être un jour nous
l'occasion de développer plus amplement.
Oui, alors non loin de Hajj Boumeddin Silka, l'hôtel Irza, d'une architecture qui ne dénote pas avec le cadre architectural ancien de Timimoun. C'est un hôtel qui est là comme pour nous rappeler une des vocations de la région, qui est le tourisme. Alors ces portes grandes ouvertes nous entraînent dans un jardin.
Oui, donc l'hôtel Irza, c'est un peu un challenge. Oui. Donc c'est une équipe qui se sont pris en main pour essayer de relever un défi. Oui. Donc nous écoutons cet entretien.
Exactement autour d'un feu, et la coutume veut que nous buvions nos trois verres de thé avec des amis avec qui nous évoquons bien sûr des souvenirs. Et c'est avec un plaisir que nous aimerions partager l'ambiance avec vous. Alors, pour commencer, il y a Rautini Barka qui est le chanteur que vous écoutez en ce moment. Il y a également monsieur Farid Senoussi, guide sur terrain, géologue et cartographe de formation, ex-cadre gestionnaire à l'ONAT de Timimoun depuis 1988. Depuis 1988, vous êtes à l'hôtel Irza. Et l'hôtel Irza est devenu donc une coopérative depuis 1997. C'est la première en hôtellerie. Mais aujourd'hui, vous êtes donc
gérant d'une coopérative. Oui. Hôtelière depuis 97 à ce jour.
Oui. Alors, comment cette aventure a-t-elle commencé?
Ben, un coup de chance, et, enfin je dirais beaucoup plus, beaucoup de chance.
Oui.
C'était une opportunité. En 97, on a vécu une année très dure qui a fait que nous, en tant qu'employés de l'ONAT, on a dû faire face à beaucoup de problèmes,
oui.
La crise du tourisme aidant. Donc il y a eu cette opportunité de l'hôtel Erzer qui nous a été offerte et on l'a saisie au vol.
Oui.
C'est un challenge pour nous, malgré que les perspectives du tourisme n'étaient pas très optimistes
oui.
pour nous. Et on a préféré jouer ce coup-là.
Oui. Voilà. Alors, monsieur Snoussi, on parlait de coopérative. C'est la première du genre.
Oui.
Vous êtes combien de personnes et comment cela s'est-il passé? C'est-à-dire, vous travaillez déjà, vous étiez cadre dans cet hôtel.
Oui.
Et comment ça s'est décidé?
Ben, j'étais directeur régional d'abord de l'ONAT à Timimoun.
Oui.
Et cet hôtel qui, il faut le préciser, est une propriété de l'APC, donc dépendait de ma direction à l'époque. Donc on avait un contrat de location Certains problèmes ont fait que l'hôtel a dû fermer pour des raisons objectives et, oui. objectives et subjectives à la fois.
Oui.
Il fallait sauver notre pain.
Oui.
Donc, j'ai constitué une coopérative avec mes 10 employés ici.
Oui. Donc, vous êtes tous gestionnaires? Comment ça se passe?
Oui, on est oui. tous des salariés.
Oui.
Gérant.
Oui.
On oui. est, donc, on est tous à 10. On est toujours à 10. Oui. 10 personnes.
Alors, c'est un peu répétitif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation touristique est réellement en crise. Comment allez-vous faire pour...
C'est très difficile.
Oui.
On a vécu des moments très difficiles parce qu'il fallait démarrer à zéro.
Oui.
L'hôtel, l'on a repris tout son matériel, ses équipements. Donc nous étions que des salariés, on n'avait pas d'argent ni de fonds, il n'y avait aucun apport financier. On ne pouvait pas apporter grand-chose à l'hôtel en matière de finances et on a démarré à zéro.
Alors c'est un hôtel de combien de chambres?
De 20 chambres, restaurant,
oui.
un bar,
oui.
un très beau jardin.
Oui, je dis, le cadre est très agréable. Là, nous sommes dehors, autour d'un feu. On a l'impression de saisir les étoiles, tellement le ciel est si bas.
Il n'est pas classé, mais je crois qu'on est quand même dans un établissement à 1000 étoiles.
Et je vais être un peu... L'hôtel est en mauvais état. Comment allez-vous faire? Est-ce que vous avez une aide pour pouvoir le restaurer? Comment?
Il y a une approche méthodique. On a commencé d'abord par gérer l'existant.
Oui.
Ça n'a pas été facile vu la récession du tourisme.
Oui.
Donc l'activité touristique est quasiment nulle. Donc il fallait d'abord survivre, hein, opérer la transition sans douleur. C'est-à-dire surtout faire changer les mentalités au personnel.
Oui.
On était dans une entreprise publique, donc
qui appartient à tout le monde et à personne.
Période d'adaptation, oui.
oui.
pour nous reverser donc avec une nouvelle mentalité dans le secteur privé. Mmh. Donc cette transition, je crois qu'on l'a accomplie avec néanmoins beaucoup de problèmes. Maintenant, notre objectif, c'est de rehausser le standing de l'hôtel.
Mmh.
Je crois que la première opération vient d'aboutir récemment, c'est que l'opération apportée, c'est la renégociation du contrat de location
oui.
De l'hôtel Erzin, parce que nous sommes toujours liés par voie de contrat avec l'APC. Donc, et la négociation a abouti sur un contrat de longue durée qui va nous permettre d'abord d'envisager l'avenir avec sérénité et de procéder aux investissements qui s'imposent.
Mm-hmm.
Afin de réhabiliter l'hôtel, le rénover, l'équiper et ensemble le classer.
Oui. Alors, on sait que Timimoun n'est par essence une ville touristique.
Oui.
Vous êtes ex-cadre de l'ONAT. Elle a toujours reçu donc, des touristes.
Oui.
Comment procéderez-vous pour cette relance? Aussi également qu'il n'y a pas une politique touristique.
Et
alors
oui,
comment allez-vous faire?
De toutes les manières, comme on est pénalisé par l'absence de cette politique
oui.
touristique, et c'est ce qu'on vit depuis des années, depuis pratiquement
oui.
une dizaine d'années. Donc en l'absence d'une politique touristique, donc on ne peut pas tracer un programme. Néanmoins, les prémices d'une relance
oui.
sont saisissables et nous comptons développer un certain nombre de programmes de séjours
oui.
pour peu, bien sûr, à condition bien sûr que les vols aériens le permettent.
Oui. Le problème ici, vous n'avez qu'un seul vol par semaine
oui.
à Timimoun.
Un seul vol, donc pratiquement impossible d'élaborer des petits programmes de week-end
oui.
de 2-3 jours parce que il faut le dire aussi qu'une semaine à Timimoun coûtera très cher.
Oui.
Et d'autant plus que le billet d'avion vient d'augmenter. Donc,
oui.
Le plus grand marché nationale est composée de jeunes.
Donc ça vous pénalise?
Oui, ça nous pénalise grandement. Il faudrait que revoir, il faudrait que les responsables concernés, notamment au niveau du transport aérien, revoient leur plan de vol sur Timimoun, sur Adra, de façon à nous permettre d'élaborer des petits week-ends en direction d'abord, maintenant, c'est-à-dire à court terme, en direction du marché national et à terme du marché international qui est en attente. Pour que la situation sécuritaire s'améliore.
Donc il y a un problème, oui, le problème, exactement.
Le problème, c'est l'absence d'une stratégie.
Oui.
Une stratégie claire, définie, avec des objectifs bien précis et des moyens appropriés.
Oui.
L'Égypte, si elle a des rentrées en devise de quelques 4 à 5 milliards de dollars, sachez qu'elle reverse environ 900 à 1 milliard de dollars en promotion, marketing, toute la différence est là.
Oui. Hein? Alors, monsieur Snoussi, on va écouter avec notre musicien et chanteur et on reviendra vers vous. Barka, chanteur. Ahlan wa sahlan. Ce chant, comment c'est un chant de Timimoun?
C'est un chant traditionnel.
De Timimoun?
De Timimoun.
Alors vous êtes chanteur depuis longtemps?
Depuis 82.
82?
Oui, exact.
Vous avez un groupe ou alors vous chantez tout seul?
Oui, nous avons un groupe qui s'appelle Anram Timimoun.
Oui. Et quel est, vous chantez des chansons de Timimoun ou alors ça se, des chants religieux, des chants modernes? Quel est votre genre de chansons?
Tout d'abord, je chante dans tous les domaines.
Oui.
Mais je préfère chanter le traditionnel de Timimoun.
Oui. Comment il s'appelle ce chant que vous voulez chanter?
Le Mahalli.
Le Mahalli. La première partie tire à sa fin. Nous retrouverons nos amis auditeurs juste après nos informations dans un genre mahalli, un autre chanteur.
Oui, donc pour illustrer le propos de notre invité précédent, donc voilà, c'est typiquement un morceau mahalli de la région de Timimoun. C'est Falqat Diwan de Charouine. Charouine, ça se trouve à environ 65 km de Timimoun. La chanson s'intitule Ya Rijal Allah Baba Al-Arabi.
Voilà, alors restez avec nous. Nous vous retrouvons juste après nos informations.